Il est pile 18h, c'est le journal présenté par Sophie Delpont. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le Brexit au menu du Conseil européen ce soir à Bruxelles. Un dîner aura lieu ce soir, mais sans Theresa May. La première ministre britannique, toujours dans l'impasse. Nous irons à Bruxelles rejoindre notre envoyé spécial Bertrand Galichet. En Crimée, un jeune homme de 18 ans a ouvert le feu dans un lycée et tué 18 personnes, en majorité des adolescents. Précision à suivre avec Nathanaël Charbonnier. Dans ce journal, nous irons aussi à l'Assemblée nationale, où la perquisition filmée hier au siège de la France insoumise continue de faire des vagues, alors que le parquet de Paris veut lancer des poursuites contre Jean-Luc Mélenchon pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et puis nous irons en Espagne, le pays pourrait devenir celui où l'espérance de vie est la plus longue, devançant ainsi le Japon. Nous découvrirons les secrets. Angela Merkel souffle le chaud et le froid à propos du Brexit ce soir. Alors que les dirigeants de l'Union européenne sont réunis en sommet à Bruxelles, avant de prendre l'avion, la chancelière allemande a déclaré cet après-midi devant le Parlement allemand qu'un accord sur la sortie de la Grande-Bretagne était toujours possible, mais que Berlin se préparait quand même à une sortie sans accord.
Ces dernières semaines et ces derniers mois, les deux parties ont négocié de manière intensive. Il y a eu de la bonne volonté des deux côtés. Les deux parties se sont rapprochées. Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, estime que 90% du texte de l'accord de sortie est achevé. Mais nous devons constater que, malheureusement, des avancées sur une question centrale n'ont toujours pas été réalisées. Et c'est la question de l'avenir de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Quiconque a déjà mené des négociations internationales sait évidemment que le plus difficile est de parvenir à une conclusion et que le problème réside dans les détails. Les chances pour arriver à un accord de sortie à la fois bon et viable sont toujours là. Dans le même temps, il est évident qu'un gouvernement responsable et tourné vers l'avenir prépare tous les scénarios, y compris celui d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne sans accord.
À Bruxelles, Angela Merkel retrouve Theresa May, la première ministre britannique, qui est toujours dans l'impasse, prise en étau entre les exigences de Bruxelles et sa situation politique fragilisée en Grande-Bretagne, à 6 mois seulement du Brexit. Et Bertrand Galichet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Culture à Bruxelles. Theresa May va s'exprimer devant les dirigeants de l'Union européenne et elle devrait s'entretenir avant avec Emmanuel Macron, avant le début du Conseil européen, avant que ces derniers donc se retrouvent ensuite pour un dîner à 27. Ce sera donc des négociations, ce sera sans Theresa May.
Oui, et toute la question étant de savoir si Theresa May est venue avec de nouvelles propositions, quelque chose de frais selon l'expression de Donald Tusk, qui doit s'entretenir le premier avec la dirigeante britannique en cette fin de journée. Alors, du nouveau, rien n'est moins sûr. Hier, Downing Street disait que la chef du gouvernement avait déjà fait connaître sa position. En fait, on assiste depuis quelques jours à une intensification de la guerre des nerfs entre Londres et Bruxelles. Personne ne croit plus que la séquence de ce soir sera le fameux moment de vérité, à moins de 6 mois de la date butoir du 29 mars 2019. Mais chacun souffle le chaud et le froid pour maintenir la pression sur l'autre, d'où les déclarations variées entendues ces dernières heures. Le président du Conseil européen estime le scénario d'un no deal plus probable que jamais, alors que le négociateur Michel Barnier veut prendre le temps pour un accord dans les prochaines semaines. Parallèlement, la plupart des capitales européennes disent se préparer au choc d'une absence d'accord. Bref, une négociation assez classique finalement, avec sa part de bluff. Avant de prendre la parole devant les 27, Theresa May doit également s'entretenir avec Emmanuel Macron et Jean-Claude Juncker, car vous savez qu'après sa déclaration prévue dans une heure, Theresa May quittera les lieux. Elle n'a pas prévu de participer au dîner qui servira de débriefing.
Bertrand Galichet, la Grande-Bretagne pourrait bénéficier d'une période de transition pour parvenir à un bon accord. Quelles en seraient les conditions ?
Alors essentiellement, la problématique de la frontière irlandaise est celle qui ressemble le plus en plus à la quadrature du cercle. Le Royaume-Uni n'aurait pas l'intention de demander une prolongation de cette période de transition envisagée pour permettre la poursuite des échanges commerciaux et la libre circulation entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Les Européens veulent des garanties très solide sur l'impossibilité de rétablir une frontière physique. Fixer un délai contraignant à une période de transition serait laisser planer un doute. C'est donc exclu pour l'instant. En arrivant ici au bâtiment Europa de Bruxelles, Theresa May vient de déclarer que de très grands progrès ont été réalisés depuis le dernier Conseil européen extraordinaire à Salzbourg il y a un mois. Elle estime que tout le monde veut un accord et que cet accord est possible. Vous voyez que ça n'engage à rien.
Merci Bertrand Galichet en direct de Bruxelles pour France Culture avec Marcos Darras pour les moyens techniques. Après la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, Donald Trump assure cet après-midi ne pas couvrir les Saoudiens. Il ajoute, le président américain, que la vérité devrait être connue d'ici la fin de semaine. Alors qu'en ce moment même, une dizaine de policiers turcs fouillent la résidence du consul d'Arabie Saoudite à Istanbul. Une nouvelle perquisition dans l'enquête sur la disparition de ce journaliste après celle menée lundi au consulat d'Arabie Saoudite. Riyad est soupçonné d'avoir torturé puis tué ce journaliste le 2 octobre dernier dans son consulat. Le consul Mohamed Al-Otaibi, qui aurait été présent au moment de l'assassinat supposé de Jamal Khashoggi, aurait quitté Istanbul hier après-midi à destination de Riyad, selon les médias turcs. Un étudiant de 18 ans a ouvert le feu et tué 17 personnes dans un lycée de Crimée, dans cette région annexée par la Russie. Parmi les victimes, une majorité d'adolescents et plusieurs professeurs. Nathalie Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Les autorités ont tout d'abord envisagé la piste terroriste avant d'écarter cette possibilité.
Oui, tuerie de masse ou attaque terroriste, c'est la question sur laquelle ont buté les enquêteurs. Dans un premier temps, il avait été évoqué l'attaque d'un commando qui aurait déposé une bombe et tué des jeunes avec des fusils. Les premières images qui montrent un immeuble aux vitres explosées laissent imaginer en tout cas la violence avec laquelle s'est déroulée l'attaque. Et les premiers témoignages vont dans ce sens. Je vous propose d'écouter la directrice du lycée qui raconte sa version des faits.
Cinq ou dix minutes après mon départ, ils sont entrés et ont tout cassé. Les fenêtres, le hall, ils couraient et ont jeté des paquets explosifs. Ils sont montés au deuxième, ils ont tué tout le monde dans le bureau. C'est un vrai acte de terrorisme, comme à Beslan. Il y a des enfants qui sont morts et des collaborateurs qui sont morts. Si j'étais restée, je serais un cadavre.
Voilà, plusieurs attaquants pour la directrice de l'école. Mais finalement, et très vite, les autorités ont expliqué avoir identifié l'homme à l'origine du massacre. Vous l'avez dit, il s'agirait d'un élève qui se serait donc suicidé. On aurait retrouvé son corps dans la bibliothèque de l'établissement. Les vidéos de surveillance le montreraient dans le lycée avec une arme à la main. Si c'est cette thèse qui est gardée, alors l'histoire retiendra celle d'un massacre perpétué par un déséquilibré. En revanche, si l'option d'un commando était retenue, alors on pourrait y voir une action plus politique et de rappeler que la Crimée a été annexée par la Russie en 2014, que cette annexion fait aujourd'hui encore débat. Il faut savoir que la ville de Kertch est située à l'est de la Crimée et qu'un pont reliant la ville à la Russie a été inauguré en mai dernier par le président russe. Tout un symbole. D'ailleurs, Vladimir Poutine s'est empressé de condamner l'attaque et d'apporter son soutien aux victimes et aux familles de victimes.
Merci Nathanaël Charbonnier. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, déclare quitter ses fonctions fin novembre. Une annonce qui intervient un an jour pour jour depuis la prise de Raqqa, l'ancien fief du groupe État islamique, dans le centre du pays. En France, le gouvernement Philippe III a fait sa rentrée ce matin au Conseil des ministres après le remaniement mis en œuvre hier. Emmanuel Macron a accueilli les 35 membres du nouveau gouvernement, un peu serrés autour d'une table, là où ils étaient 22 au début du quinquennat. Le président a détaillé la liste des réformes, ou plutôt des transformations qu'il veut continuer à mettre en œuvre, selon le vocabulaire macroniste. Aucune surprise pour le contenu, comme le chef de l'État l'a dit hier soir lors de son allocution télévisée. Il n'y a ni tournant ni changement de cap ou de politique. Bonsoir Marine Bordron.
Bonsoir Sophie, bonsoir à tous.
Alors vous étiez ce matin à l'Élysée. Ce Conseil des ministres a surtout permis à Emmanuel Macron de cadrer son nouveau gouvernement.
Il y avait comme une impression de redite dans le discours d'Emmanuel Macron. Le président parlait déjà hier soir dans son allocution télévisée des doutes, des peurs des Français. Eh bien il l'a encore rappelé en Conseil des ministres ce matin. Un extrait de 15 minutes a été exceptionnellement transmis à la presse.
Il y a une impatience, il y a des colères, il y a des blessures, il nous faut y répondre sans facilité, et ça n'est jamais ce qui a été retenu depuis 17 mois, c'est-à-dire en s'attaquant aux causes profondes et en essayant d'avoir une action durable, cette transformation dont nous parlons si souvent.
Un conseil des ministres parfaitement rodé, donc seul imprévu ce matin, l'apparition sur les réseaux sociaux d'une vidéo de la nouvelle secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, prise cet été. On y voit celle qui était alors cadre chez Danone, défendre l'huile de palme dans la fabrication de lait infantile. Ce matin, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, s'est voulu rassurant. Pas de problème de cadrage, non. La nouvelle secrétaire d'État respectera bien les objectifs gouvernementaux.
Emmanuelle Wargon, elle fait partie d'un gouvernement dont la position, elle est très claire. C'est que l'huile de palme pose un problème environnemental qu'on ne peut pas nier. La culture de l'huile de palme, ça conduit à quoi? Parfois d'importantes déforestations et à des atteintes graves à la biodiversité.
L'exécutif se réunit à nouveau ce soir. Un séminaire gouvernemental est organisé. Encore une occasion de cadrer la nouvelle équipe. Benjamin Griveaux.
On apprend à se connaître, on va cadrer les choses, mais de manière assez large. C'est aussi un moment convivial entre nous. Et il est normal, quand on assemble une nouvelle équipe, d'apprendre à se connaître et puis de fixer les étapes, la méthode de travail pour les semaines et les mois qui viennent.
Après un nouveau gouvernement, un autre chantier attend désormais l'exécutif, celui du parti La République En Marche. Il faut désormais remplacer Christophe Castaner à la tête de l'organisation politique. Un bureau doit se réunir a priori vendredi pour désigner une direction provisoire.
Merci Marie-Hélène Bordron. Au lendemain des perquisitions au siège de la France Insoumise et chez Jean-Luc Mélenchon notamment, l'Union syndicale des magistrats et le syndicat des cadres de la sécurité intérieure dénoncent les comportements scandaleux de ceux qui ont occupé les lieux pour faire obstacle au bon déroulement des perquisitions. Dans un communiqué, ils ajoutent qu'ils ont pour certains commis des violences contre le procureur de la République, des policiers mais aussi des agents des services fiscaux présents sur place. Ce soir donc, l'affaire a encore une fois rebondi dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Antoine Geoffin, bonsoir.
Bonsoir Sophie.
Vous étiez dans l'hémicycle cet après-midi. La passe d'armes a eu lieu cette fois entre Alexis Corbière et le Premier ministre Édouard Philippe.
Oui, c'est le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis qui s'adresse directement au Premier ministre Édouard Philippe pour la première des questions au gouvernement. Nous ne demandons aucune faveur, lance-t-il, mais simplement la justice.
Le mouvement France Insoumise a été traité comme s'il s'agissait d'une association de malfaiteurs. Une centaine de fonctionnaires de police ont été mobilisés pour mener une quinzaine de perquisitions. Des données personnelles, des photos de vacances, des agendas. Pourquoi ? Qui a décidé qu'un dispositif aussi disproportionné soit déployé ?
La justice, lui répond Goguenard, une partie de l'hémicycle. Alexis Corbière poursuit.
Aucune organisation politique n'a eu à subir cela, et encore moins au stade d'une enquête préliminaire qui, je tiens à le rappeler, n'est pas diligentée par un juge d'instruction indépendant, mais par un procureur placé sous l'autorité du ministre de la Justice.
Pas un mot du député France Insoumise sur les violences commises sur des magistrats et policiers hier par un Jean-Luc Mélenchon hors de lui. C'est sur ces images qu'Édouard Philippe choisit d'abord de revenir.
Monsieur le député, les images que j'ai vues était d'une très grande violence à l'égard de fonctionnaires de police qui exerçaient leur mission. D'une très grande violence à l'égard de procédures qui ne relèvent pas du gouvernement. Et je ne crois pas, monsieur le député, que nous gagnions quoi que ce soit à mettre en cause l'indépendance de la justice. J'observe, monsieur le député, que tous ceux qui ont été mis en cause et qui parfois ont vu leur honneur mis en cause ont systématiquement gardé, à l'égard des forces de police et à l'égard de l'institution judiciaire, un très grand calme.
Vous l'avez entendu, mais également des syndicats de police ce soir. Ils demandent au nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de porter plainte.
Merci Antoine Geoffin. À l'Assemblée nationale, où un huitième groupe vient d'être constitué, un record sous la Ve République. Ce groupe de 16 députés est composé de marcheurs déçus de La République En Marche, comme François-Michel Lambert, mais aussi de centristes d'UDI Agir, tels que Charles de Courson ou encore le socialiste François Pupponi. Ils se revendiquent indépendants dans leur vote. Ce groupe est inscrit comme groupe minoritaire et non comme groupe d'opposition, ont insisté ses membres cet après-midi. C'est par une lettre que le numéro 1 du syndicat Force Ouvrière a annoncé sa démission ce matin. Pascal Pavageau n'a pas tenu plus d'une semaine après les révélations du Canard Enchaîné à propos d'un fichier constitué sur une centaine de responsables du syndicat, mentionnant à côté de leur nom des appréciations souvent peu élogieuses, bêtes, mauvais ou bien encore trop intelligents pour le faire entrer au bureau fédéral parmi les nombreux exemples. Catherine Pétillon, bonsoir.
Bonsoir.
Pascal Pavageau était adepte de la ligne dure de FO. Il sera resté à peine 6 mois en poste et la commission exécutive confédérale réunie ce matin a tenté d'entamer la gestion de la crise qui s'ouvre.
Oui, car non seulement le syndicat n'a plus de tête, mais il doit aussi composer avec ce scandale de fichiers, contenir des querelles intestines ravivées et faire en sorte que son image ne soit pas trop abîmée à la veille d'un agenda social chargé et d'élections professionnelles capitales. De tout cela, il a été question durant les 6 heures de réunion tenue par la direction élargie de FO et dans une délibération publiée après, elle condamne la méthode des fichiers et précise que les responsables ont été écartés de l'organisation. Notre confédération se doit d'être irréprochable, insiste-t-elle, pour, je cite, contrecarrer l'odieuse campagne dont nous sommes l'objet, qui vise à nous ranger dans le camp des tous pourris. Le texte condamne au passage certaines pratiques internes, méthodes de nomination, pression, remise en cause du fonctionnement fédéral. Une commission a été chargée en quelque sorte de mettre de l'ordre en ces termes assez flous, aider le bureau confédéral à éradiquer ces méthodes et prendre toutes les décisions utiles. Parallèlement à ça, la direction insiste, il ne s'agit pas de remettre en cause les orientations du Congrès. Un écho direct aux déclarations des soutiens de Pascal Pavageau. Ils sont nombreux à dénoncer les attaques des plus réformistes au sein de FO quand Pascal Pavageau avait lui été élu sur une ligne plus offensive et partisane d'alliance avec les autres organisations syndicales, à commencer par la CGT. De Pascal Pavageau, il n'est quasiment jamais question directement. Son nom n'est même pas cité dans la délibération et ce n'est qu'au bout de 2 pages qu'est évoqué son cas avec l'annonce d'une convocation les 21 et 22 novembre du Parlement, pour ainsi dire, du syndicat. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera pris acte de la démission de Pascal Pavageau et décidé de la suite à donner.
Merci Catherine Pétillon. C'est la seconde fois qu'un dirigeant syndical est poussé à la démission par ses troupes en moins de 4 ans. En 2015, c'était Thierry Le Pen qui avait dû quitter la tête de la CGT après des révélations du canard enchaîné sur son train de vie. Faut-il réformer l'éducation prioritaire qui concerne 20% des élèves en France? Ce matin, la Cour des comptes a dressé un bilan plutôt décevant d'une politique mise en place il y a maintenant 40 ans. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Sophie Delpont.
Alors la ligne appliquée semble bien loin des objectifs.
Oui, lancée en 1981, les zones d'éducation prioritaire devaient réduire l'écart de niveau d'au moins 10% avec les autres établissements classiques. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont fait que s'accroître. Ils sont de 20% en français et de 35% en mathématiques. Le rapport préconise donc plus d'autonomie pour les établissements, des professeurs plus aguerris avec au moins 2 ans d'ancienneté, plus de mixité, mais aussi la fin des labels pour lutter contre le détournement à la carte scolaire et aussi pour mieux répartir les moyens alloués. Sophie Moati, co-auteur du rapport.
Et ce que nous souhaitons aussi, et c'est là où l'exigence est difficile, c'est maintenir et même intensifier la concentration des moyens dans ceux des établissements qui véritablement concentrent les difficultés. Il peut y avoir véritablement des situations qui peuvent être incompréhensibles du fait de cette logique binaire.
Attention à ne pas en profiter pour faire baisser les moyens dédiés à l'éducation prioritaire, prévient Stéphane Crochet, co-secrétaire national du SEUNSA.
On peut craindre que l'absence d'étiquette finisse par faire perdre de vue que l'on a bien voulu concentrer des moyens en termes de taux d'encadrement, mais aussi en termes d'accompagnement pédagogique, et que tout ça, en quelques années, se dilue et ne se voit plus, et qu'on l'arrête, finalement, cette éducation prioritaire.
Aujourd'hui, l'éducation prioritaire ne s'adresse qu'à 30% des élèves en difficulté, les autres étant scolarisés dans les établissements classiques et ordinaires.
Merci Hakim Kasmi. Nous partons maintenant en Espagne. Le pays devrait devenir le pays où l'espérance de vie est la plus longue. Ce sera en 2040. Une étude de l'Université de Washington, publiée par la revue The Lancet, prévoit un changement sur le podium des pays où on vit le plus longtemps. L'Espagne, avec une espérance de vie aujourd'hui de 85,8 contre 83 ans aujourd'hui, devrait ravir la première place au Japon. Enquête sur les raisons de la bonne santé des Espagnols, Mathieu de Taillac.
Les experts distinguent 4 grands facteurs qui favorisent l'espérance de vie. Il y a les comportements, c'est-à-dire l'exercice physique ou l'alimentation. Il y a également l'environnement, cela va de la pollution jusqu'au stress. Il y a la loterie, de la génétique. Autant de facteurs qui ne varient pas beaucoup entre l'Espagne et ses voisins européens. Il y a enfin le système de santé qui expliquerait plus d'un tiers de l'espérance de vie. Le docteur Juan de Liano est spécialiste en santé publique et directeur de la fondation Gaspar Casal.
L'Espagne a une bonne chose, c'est son système de santé publique. Il permet l'accès aux soins sans avoir à payer au moment de son utilisation. Même si, bien sûr, on paie par le biais de nos impôts sur le revenu.
Effectivement, en Espagne, il n'y a pas de système de remboursement. Non, simplement, quand un patient doit aller chez le médecin, il se dirige à un centre de santé, montre sa carte de sécurité sociale et accède gratuitement à la consultation. Un obstacle de moins qui évite de retarder l'accès aux soins. Et puis, parmi les différences, il y a des éléments plus culturels. La famille a joué pendant la crise un rôle d'amortisseur social qui se traduit en de meilleures conditions de vie et en une meilleure santé. Il y a enfin des raisons naturelles de bien se porter en Espagne.
Le climat, par exemple, les heures de soleil, l'organisme réagit différemment et fait que l'on sécrète des endorphines. Et le bonheur est une autre variable qui influe de manière décisive sur l'espérance de vie.
300 jours de soleil par an promettent les promoteurs touristiques sur les plages espagnoles. Le voyage n'est pas encore remboursé par la Sécu.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Culture. Dans l'Aude, on atteint maintenant 14 morts après les inondations dévastatrices. Un corps a été découvert dans la commune de Villalier, a déclaré ce matin le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Le temps de la pluie ce soir au bord de la Méditerranée. Météo France a placé la Haute-Corse en vigilance orange aux orages et aux inondations ce soir. Temps largement dégagé partout ailleurs. Demain, la pluie se décalera vers l'ouest, le long des Pyrénées jusqu'à Biarritz. Quelques nuages sur le nord et la Picardie. Le soleil dominera partout ailleurs avec des températures comprises le matin entre 8 et 18 degrés. C'est la fin de cette édition préparée avec Julien Loquet. Prochain journal de la rédaction, ce sera à 22h avec Stanislas Vazak.